Oui.
À cette époque, il y avait pas une pratique, une culture d'innovation des enfants qui était plus courante.
Si, si, c'est. En fait, dans la religion qu'on appelle cananéenne, mais Israël est un peuple tiré du milieu des autres peuples. Donc il est tiré d'une civilisation, d'une culture. Dans cette culture, il y avait des sacrifices d'enfants qui sont mentionnés dans la Bible. On y dit par exemple dans le premier livre des Rois, au chapitre 16, qu'un roi immole son fils pour reconstruire Jéricho. Les prophètes dénoncent aussi le fait qu'en Israël, on immole des enfants dans la vallée de la Géhenne, c'est dans le livre de Jérémie. Il y a aussi un texte dans le livre de Michée, le texte qui a donné les impropères du Vendredi Saint, un texte où Dieu reproche à son peuple, il lui dit mais en quoi t'ai-je fatigué, mais pourquoi dis-moi le mal que je t'ai fait pour que tu sois comme ça ingrat envers moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, c'est ça que tu me reproches? Quand Balaam voulait te maudire, je l'ai obligé à te bénir, c'est ça que tu me reproches? Et alors l'effet, on voit l'effet de ce discours de Dieu sur un personnage qui est un auditeur de ce discours et qui dit « Mais qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur pour réparer l'offense que je lui ai faite ? Je vais lui offrir des milliers de béliers, des torrents d'huile, etc. Je vais lui offrir jusqu'à mon fils aîné. » Et Dieu dit « Mais non, ce n'est pas ça que je te demande. Je te demande simplement de pratiquer la justice et la miséricorde. » Mais le fait même que est né dans le cœur de cet homme qui veut réparer l'offense faite à Dieu, l'idée qu'il pourrait offrir son fils en sacrifice pour plaire à Dieu, montre que c'était quelque chose qui effectivement faisait partie de la mentalité ambiante. Aussi parce que un enfant à cette époque-là n'a peut-être pas la dignité que nous lui reconnaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, un enfant, c'est véritablement une personne avec tous ses droits. Mais à cette époque-là, d'abord, il y avait beaucoup de mortalité infantile. Et un enfant, avant qu'il soit adulte, n'avait pas le même statut. Voilà. En tout cas, la Bible a toujours condamné les sacrifices d'enfants. Alors, je voudrais juste revenir sur la question que vous posiez avant la pause, oui. Vous pouvez la redire ?
Oui. Alors, pour moi, je ne comprends pas les grands prêtres qui étaient soi-disant des gens cultivés, je veux dire, ce souci, qui n'ont pas fait le lien tout de suite entre Abraham et la vie du Christ. Personne n'a reconnu.
Voilà. En gros, la question c'est comment se fait-il que les autorités religieuses du peuple juif qui lisaient la Bible et qui connaissaient ces textes n'aient pas, eux, fait le lien entre la mort du Christ et ce texte? C'est ça votre question?
Oui, tout à fait.
Voilà.
Surtout quand on voit qu'Abraham charge sur son fils le bois du sacrifice,
oui.
Il fallait changer le sacrifice, le mot bois c'était identique.
Oui. Saint Paul répond à cette question dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3. C'est une question qu'il a lui-même torturée. Saint Paul a étudié la loi, il nous le raconte, il dit « Moi j'ai étudié la loi au pied de Gamaliel. Du point de vue de la loi de Dieu, j'étais irréprochable. l'élève le plus brillant possible, et qui connaissait parfaitement ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et il persécutait les chrétiens. Et il ne reconnaissait pas Jésus comme le Messie attendu par Israël. J'ai envie de dire en toute bonne foi. Il était pris de zèle pour Dieu. Et pour lui, le zèle pour Dieu, c'était de persécuter ceux qui annonçaient que cet homme mort lamentablement sur la croix, nu, méprisé de tous, oser dire que c'était le Messie de Dieu, c'est impossible. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Christ. Et là, il nous raconte, il a vu une lumière éblouissante, et puis ses yeux, il a eu des écailles sur les yeux, il ne voyait plus rien. Il est conduit par la main comme un petit enfant jusqu'à Damas, et c'est au moment où il est baptisé que les écailles tombent de ses yeux. Et là, il voit ce qu'il n'avait pas vu jusque-là. C'est seulement dans la rencontre avec le Christ qu'il peut voir ce qu'il n'avait pas vu jusque-là. Et il dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, il fait allusion à un passage de l'Ancien Testament où Moïse se met un voile sur le visage parce que quand il a rencontré Dieu dans la tente de la rencontre, son visage est tellement éblouissant de la gloire de Dieu qu'il éblouit ceux qui sont autour de lui. Il est obligé de mettre un voile pour ne pas éblouir ceux qui sont autour de lui. Et il dit, mais tant qu'on lit l'Ancien Testament sans avoir rencontré le Christ, on a un voile sur les yeux. Et donc on ne comprend pas comment la promesse s'est accomplie dans le Christ. C'est seulement quand on a rencontré le Christ qu'on comprend en relisant l'Ancien Testament. C'est ce que saint Paul a fait. Il dit qu'il est parti 3 ans et on peut imaginer que pendant ces 3 ans, il reprend l'Ancien Testament et « Mais oui, l'Ancien Testament me parle du Christ, celui que j'ai rencontré. » Mais il n'y a pas de déduction logique que l'accomplissement de la promesse va se dérouler de la manière dont elle s'est déroulée dans le Christ. Au contraire, l'accomplissement est venu de façon inattendue. C'était inimaginable que le Messie de Dieu qui devait assurer le règne de Dieu et donc manifester la puissance de Dieu, que ce Messie meurt comme un misérable. C'était inimaginable que le Dieu très haut, transcendant, se fasse homme. Donc il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas déduire. Après coup, quand on a rencontré dans une rencontre vivante le Christ, qu'on a fait l'expérience soi-même d'avoir rencontré le Christ ressuscité qui me donne sa vie et sa lumière, alors oui, je relis tout ça et je dis, ben oui, c'est bien ça. Et c'est ce que nous professons dans le credo. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures et il est ressuscité des morts selon les Écritures. Les Écritures de l'Ancien Testament nous affermissent notre foi. Ça va ?
C'est un petit peu la vie de tous les grands saints.
Pardon ?
C'est un peu la vie des grands saints. Tant qu'ils n'avaient pas fait cette rencontre, que par exemple Charles Foucault peut partir dans des airs.
Oui.
Pour vraiment se détacher des choses du monde.
Oui.
Et être vraiment dans l'intimité et cœur à cœur avec Christ. C'est comme ça, cette rencontre, il y a beaucoup de grands saints.
Oui, oui, oui. La vie chrétienne, c'est toujours une rencontre vivante avec le Christ. C'est pas reconnaître intellectuellement la vérité d'une théorie. C'est aussi Benoît XVI qui disait le christianisme n'est pas n'est pas une théorie ou une philosophie, c'est un fait. Un fait. On reconnaît un fait c'est un fait qui intervient dans ma vie. Et c'est une rencontre vivante. Voilà. Et après, la foi au Christ est donc cette relation vivante qui est une relation de don mutuel entre le Christ et moi, doit s'affermir dans tout mon être et donc mon intelligence doit être impliquée complètement dans cette relation. Et donc la parole de Dieu nourrit mon intelligence et affermit ma foi. Voilà. Alors c'était important parce que depuis 50-60 ans, l'Église a changé son regard sur le peuple juif. Et pendant longtemps, on a fait peser sur le peuple juif dans son ensemble une culpabilité qui est fausse. On a des statues dans les cathédrales avec la synagogue qui a les yeux bandés parce que ils sont aveugles, ils ne voient pas l'évidence. Mais voilà, Saint Paul dit non, c'est pas ça. C'est que mystérieusement, ils n'ont pas encore rencontré le Christ. Et ce sont nos frères aînés dans la foi et ils peuvent nous enrichir de leurs témoignages et de leur interprétation des Écritures. Alors, nous prenons maintenant le deuxième texte, et même chose, je vous laisse d'abord le lire et comprendre au fond comment est construit ce texte et qu'est-ce qu'il veut nous dire. Qu'est-ce que le texte dit en lui-même ? Alors, même chose, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont arrêté dans ce texte ? Qu'est-ce que ce texte cherche à nous montrer ? Quel est le chemin qu'il nous fait faire ? Oui ?
Tous ceux qui suivent Moïse ont la vie sauve, donc on peut faire le lien avec la vie éternelle. Il y a les autres qui périssent.
Oui.
Leurs yeux.
Oui.
C'est quand même une mort terrible, la manière de.
Oui. Alors peut-être qu'on ne va pas tout de suite au Nouveau Testament. On commence par rester dans le texte lui-même. Oui.
Qui sont du côté des Israélites. Il y a Dieu, Moïse, l'ange de Dieu et la colonne.
Dieu, Moïse, l'ange de Dieu, la colonne. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnages dans ce texte ? Il y a le peuple et les Égyptiens. Alors, commençons. Par qui on commence ? On commence peut-être par les Égyptiens. Qu'est-ce qui nous est dit des Égyptiens ? Ils reviennent sur leurs paroles. Donc, Pharaon a laissé partir Israël. Et puis après, il change d'avis. Il se dit, mais on est bête, on a laissé partir nos esclaves. Ils se sont enfuis comme ça sans qu'on réagisse. On va quand même aller les poursuivre et les rattraper. Est-ce que c'est... Donc, les Égyptiens changent d'avis. Qu'est-ce qui nous est dit encore des Égyptiens ? L'obstination. Oui. Ça nous est dit encore différemment, l'obstination. Alors, quelle est l'expression qui est utilisée ? Oui. Quelle est l'expression qui est utilisée ? Oui. Voilà, il endurcit le cœur. Oui. Alors ça, c'est un motif qu'on retrouve depuis le début du livre de l'Exode, l'endurcissement du cœur de Pharaon. On le trouve la première rencontre de Moïse et de Pharaon, c'est au chapitre 5. Moïse est envoyé par Dieu à Pharaon. Au chapitre 5, versets 1 et 2, Moïse et Aaron vinrent dire au Pharaon, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple et qu'il fasse au désert un pèlerinage en mon honneur. » Le Pharaon dit, « Qui est le Seigneur pour que j'écoute sa voix en laissant partir Israël ? J'ignore le Seigneur. » Littéralement, « Je ne connais pas le Seigneur et je ne veux pas laisser partir Israël. » Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous, il nous faut aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier au Seigneur notre Dieu, de peur qu'il ne se précipite sur nous avec la peste ou l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux? Allez à la corvée. Au fond, le Pharaon a raison. Il a des gens qui travaillent pour lui. Ils viennent lui dire, ah ben nous on a, notre Dieu nous a dit d'aller dans le désert, on va sacrifier pour lui. Il dit, mais moi je connais pas votre Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi je les connais bien les dieux, il y a tous les dieux de l'Égypte, etc. Mais votre Dieu, je n'ai jamais entendu parler de votre Dieu. Je ne le connais pas. Et donc il est agnostique, il ne connaît pas. Et tout le récit qui suit, c'est le récit des plaies d'Égypte. Ce sont des signes qui sont donnés au Pharaon pour qu'il reconnaisse le Seigneur. Ce sont des signes de la puissance du Dieu dont parle Moïse. Et donc il y a 10 signes. Et le dernier signe, c'est la mort des premiers-nés dans tout le pays d'Égypte. Et comment réagit Pharaon devant les signes? Il ne cède pas. Au bout d'un certain temps, je ne sais plus si c'est le 5e, 6e signe, il dit, ah ben oui, c'est bon, allez, on vous laisse partir, et après il revient en arrière. Et donc, la façon dont la Bible, le livre de l'Exode, nous parle de Pharaon, elle nous en parle de 3 manières. Elle nous dit, le Pharaon, le cœur de Pharaon, s'endurcit. Et donc là, c'est pas Dieu, c'est simplement un constat. Pharaon s'obstine, il refuse les signes. Et puis, il y a une autre manière qui est de dire Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Qu'est-ce qui nous est dit à ce propos, au verset 8 et au verset 4. D'abord au verset 4. Je ferai en sorte que Pharaon s'obstine et il les poursuivra. Moi, je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront, en fait en hébreu c'est le verbe connaître, donc ils connaîtront que je suis le Seigneur. Et on peut très bien comprendre que Dieu aurait pu dire, bon, Pharaon ne me connaît pas, je lui fais un signe, il connaît pas, donc toujours pas. Bon, je fais un deuxième signe, ah, il connaît toujours pas. Bon, je fais un troisième signe, non. Bon, ben, tant pis, je le laisse. Bon, il veut pas connaître, bon, c'est comme ça. Bon. Mais comme Dieu continue à faire des signes, l'évidence devient de plus en plus forte. Le premier signe, le pharaon, il dit, oh, bah, mes magiciens, ils font pareil. Hein. Ça, c'est pas vraiment un signe. Le deuxième signe, c'est un peu pareil, etc. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les signes, Pharaon, de plus en plus, nie l'évidence. Et donc, il s'endurcit de plus en plus. Il faut qu'il s'obstine de plus en plus pour ne pas voir l'évidence. Et d'une certaine manière, c'est comme quelqu'un qui est complètement obstiné. On le voit parfois avec un adolescent. Voilà. Il s'obstine dans le non. Je sais bien que si parfois... Si j'insiste, je vais l'endurcir. Il vaut mieux ne pas insister et puis revenir après. Et voilà. Donc il y a des moments où il faut tenir bon. Il y a des moments parce que sinon on risque de l'endurcir dans le nom. Et bien là, quand Dieu continue de faire des signes, de fait, même si ce n'est pas son intention d'endurcir le cœur de Pharaon, mais le résultat, c'est bien ça. Et donc, les signes de Dieu conduisent à un endurcissement de plus en plus fort de Pharaon. Mais pourquoi Dieu fait ça ? Parce que ce qu'il a en perspective, c'est que les Égyptiens connaissent que je suis le Seigneur. Et ça, c'est un motif qu'on retrouve plusieurs fois dans le récit. On le retrouve au verset 4. « Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis le Seigneur. » On le retrouve encore au verset 17. 10, oui, c'est ça. 17 et 18. « Moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, ils pénétreront derrière eux dans la mer, je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront, connaîtront, que je suis le Seigneur, quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » Et donc, l'endurcissement du cœur de Pharaon conduit à la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu va faire un signe éclatant. Et ce signe, dans l'intention de Dieu, doit conduire à ce que, enfin, les Égyptiens connaissent ce Dieu-là. Ils vont le connaître à leurs dépens, mais ils vont quand même le connaître. Donc ça, c'est un des motifs du texte important. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon. Alors, les Égyptiens, qui sont les nations, connaîtront que je suis le Seigneur. Ça, c'est ce qui nous est dit des Égyptiens. Et puis, à la fin du récit, qu'est-ce qui nous est dit ? Qu'est-ce qui nous est dit des Égyptiens dans les derniers versets ? Voilà. Ils voient l'Égypte morte sur le rivage. le cadavre des Égyptiens. Donc l'Égypte, c'est l'oppresseur depuis le chapitre 1 de l'Exode. L'Égypte, le pharaon, il voit que les Hébreux se multiplient, ils croissent et se multiplient. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ils croissent et se multiplient. Et ils remplissent tout le pays. Ça vous dit quelque chose ? Au chapitre 1 de l'Exode. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette expression, ils croissent, ils se multiplient, ils remplissent le pays, la terre. Ça veut dire que la bénédiction de Dieu du chapitre 1 sur toute l'humanité est particulièrement à l'œuvre dans ce peuple-là. Et le pharaon dit, au lieu de se réjouir, de se dire « Magnifique, la bénédiction de Dieu est là. » Le pharaon dit « Mais c'est très inquiétant. Mais un jour, ils vont prendre le pouvoir, ils vont nous opprimer. Il faut absolument... On les élimine. Génocide. Tous les garçons, on les met au fleuve. » Et donc, pharaon se met en travers de la bénédiction de Dieu. Dieu ne peut pas ne pas réagir. Et donc la question, depuis le chapitre 1 de l'Exode, c'est à qui appartient ce peuple ? Est-ce que Pharaon a droit de vie ou de mort sur ce peuple ? Au fond, qui règne sur ce peuple ? Qui est le véritable roi qui agit dans l'histoire ? Pharaon dit, ben moi je suis le Pharaon, j'ai droit de vie ou de mort sur un peuple. C'est le peuple de Dieu peut-être, mais je ne connais pas ce Dieu, en tout cas, ce peuple, je l'élimine. Et ce peuple crie vers Dieu, et Dieu voit, et Dieu intervient, et Dieu va venir au secours de ce peuple. Et donc à la fin, celui qui s'est mis en travers de la bénédiction de Dieu, périt, on voit son cadavre mort sur le rivage. Qu'est-ce qui est dit maintenant d'Israël ?
Il doute.
Il doute. Où est-ce que c'est ça ? Oui. Alors, on peut même lire à partir du verset 10. Alors, ce que j'ai mis, qui est un peu décalé, les versets 1 à 14, ils ne sont pas lus lors de la veillée pascale. Ces versets-là ne sont pas lus, mais je vous les ai mis parce que sinon, on ne comprend pas bien la suite. Et donc, ils sont pris d'effroi. C'est le même verbe, en fait, craindre. Mais le verbe craindre, avoir peur, il est utilisé dans des sens différents. Ils sont pris d'effroi devant Pharaon, mais ils craignent Dieu. Et donc, ce qui est dit au verset précédent, verset 9, les Égyptiens les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer. Ils sont pris en étau. Ils sont arrivés au bord de la mer, ils ne peuvent pas aller plus loin, et derrière, voilà les chars de Pharaon qui arrivent. Comment ne seraient-ils pas saisis d'effroi ? Et donc, ils crient vers le Seigneur. Est-ce qu'ils ont déjà fait ça ? Au chapitre 2 de l'Exode, dans leur servitude, les fils d'Israël crient vers Dieu, Dieu entend, Dieu voit, et Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, et il dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, va voir le Pharaon. Et donc, Israël a déjà fait l'expérience de crier vers Dieu et que Dieu a entendu son cri et que Dieu est venu intervenir. Donc cette fois, il crie vers Dieu Et ils disent à Moïse, c'est pas la peine. C'est bien malin de nous avoir fait sortir d'Égypte pour qu'on meure dans ce désert. C'était tellement mieux l'esclavage. Qu'est-ce qu'on était bien quand on était esclave? La liberté, ça fait peur. Retournons en Égypte. Et donc, c'est l'expression du doute. Un peu plus loin, à la fin du chapitre 15, il y a la première épreuve dans le désert, c'est « qu'est-ce que nous allons boire ?» Et le narrateur dit, on appelle ce lieu le lieu de l'épreuve et de l'amertume, parce que Israël a dit au Seigneur, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» En fait, cet effroi, c'est l'expression du doute sur la présence de Dieu auprès de son peuple. Paradoxalement, ils viennent de crier vers Dieu, de l'appeler à l'aide, et tout de suite ils disent, c'est pas la peine, on va mourir, c'est fichu, on était bien mieux quand on était esclave.
Donc ils se sentent abandonnés.
Ils se sentent abandonnés, oui. Et ils disent, c'était tellement mieux de servir les Égyptiens. Or, la vocation d'Israël, c'est de servir Dieu. Et en fait, le mot service, comme en français, les servants d'autel, c'est à la fois le service liturgique et puis le service au sens du travail pour quelqu'un. Et il y a, un livre qui est un commentaire de l'Exode et qui dit « De la servitude au service ». Israël est appelé à passer de l'esclavage, de la servitude, au service libre de Dieu. Et là, il est en train de dire « On préfère la servitude ». Servir Dieu dans la liberté, c'est trop, non, c'est trop exigeant, puis là, de toute façon, on va mourir. Moïse répond au peuple, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Alors, le problème, c'est que c'est toujours le même verbe en hébreu, mais une fois, c'est « ils sont saisis d'effroi », une fois, c'est « n'ayez pas peur », et une autre fois, ça sera « ils craignent Dieu ». Mais c'est toujours le même verbe. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, tenez bon, vous allez voir. Aujourd'hui, ce que le Seigneur va faire pour vous sauver, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Donc, l'oppresseur que vous voyez, vous ne le verrez plus. Ce que vous allez voir, c'est Dieu qui vous sauve. Et donc, Moïse invite Israël à la foi, à la confiance. Alors, le texte liturgique que nous entendrons à la veillée pascale commence avec « Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. » Comme si Moïse s'était plaint à Dieu, alors qu'il vient de faire exactement l'inverse, il vient de dire à Israël vous allez voir, faites confiance, Dieu va venir vous sauver. Bon. Il y a peut-être, si vous lisez les notes de vos Bibles, il y a peut-être eu là plusieurs récits différents qu'on a rassemblés en un seul récit, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait bien d'aplomb. Et ce n'est pas grave. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le récit du passage de la mer, de la déroute des Égyptiens et du passage de la mer. Comment nous est présenté le Seigneur dans ce récit? Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il observe. C'est le combattant. C'est lui qui prend les choses en main. C'est ce que le Moïse avait dit au peuple, au verset 14, le Seigneur combattra pour vous, vous n'aurez rien à faire. Le récit des guerres d'Israël, c'est souvent ça. Jéricho, la prise de Jéricho, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent de la trompe, ils chantent des chants sept fois autour de la ville et les murailles s'effondrent et c'est fini. Et donc, c'est le Seigneur qui combat pour Israël. Et donc, comme un bon stratège, il quitte l'avant-garde d'Israël, il se met à l'arrière-garde, il est entre les deux camps, et puis c'est lui qui alors, au verset 21, le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Si vous faites attention dans le récit de la création en Genèse 1, la toute première lecture, Dieu met de l'ordre dans le cosmos. Donc d'abord, il y a le ciel et puis tout ce qui est en dessous. Tout ce qui est en dessous, c'est la mer. Mais à un moment, il sépare la mer du sec, de la terre sèche. C'est le Créateur qui est capable de séparer la mer et la terre sèche. Et c'est le Créateur ici qui intervient dans les éléments de la création pour sauver Israël. Comme au jour de la création, il fait émerger la terre sèche, qui est le refuge pour Israël. Et Israël passe sur la terre sèche. Et puis après, la mer revient sur les Égyptiens et les Égyptiens sont anéantis dans la mer. Le vent d'est, oui. Pardon ? Oui.
C'est pas très logique parce que l'Égypte est à l'ouest de la mer.
L'Égypte, oui, et alors ?
Le Sipon est est. C'est pas un pont qui ouvre la mer pour laisser passer les enfants d'Israël.
Oui. Alors, c'est une question importante qu'il faudra étudier avec précision. Mais pour l'instant, l'important du texte, c'est que là, il y a un espace de terre sèche qui permet le salut d'Israël. Et que le Dieu créateur maître des éléments, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu créateur maître des éléments, et il est capable de faire ça. Et il ouvre un chemin pour Israël, et ensuite il anéantit les oppresseurs, le tyran, celui qui, au tout début du livre, a condamné à mort ce peuple. Alors, évidemment, c'est horrible cette noyade. C'est la pire des morts, etc. Puis qu'est-ce que c'est que ce Dieu cruel qui... Mais, encore une fois, entrons dans la mentalité de celui qui raconte. Le retournement de situation, c'est le rétablissement de la justice dans l'Ancien Testament. On trouve ça dans les psaumes. Celui qui tendait un piège est tombé dedans. Celui qui tendait un piège à l'innocent, ben, il est tombé dedans. Eh bien, celui qui condamnait à mort ce peuple porteur de bénédiction, mal lui en a pris. Et on est dans le registre de l'épopée. C'est-à-dire, c'est un récit où il y a une part de merveilleux, parce que il y a les bons et les méchants, il y a les héros et les autres, et dans l'épopée, le héros ne peut pas gagner à moitié. Sa victoire est nette, irréprochable, il est le héros. Et qui est le héros ici? Non, ce n'est pas Israël. Israël est mort de trouille. Israël n'est pas un héros. Israël, c'est l'anti-héros. Le héros, c'est Dieu. C'est lui qui combat pour Israël. Encore une fois, on est dans un genre littéraire particulier qui est celui de l'épopée. Dans notre culture, c'est le genre littéraire de la chanson de Roland, par exemple, ou de les chevaliers de la table ronde, ou des choses comme ça, ou les récits d'Homère. Et donc, si c'est Dieu le héros, la victoire doit être nette, sans bavure. Voilà. Mais ce n'est pas le genre littéraire d'un rapport de l'armée de la guerre 14 qui note exactement les mouvements de l'armée, puis le nombre de tués, le nombre de blessés avec précision, etc. C'est pas du tout la perspective de l'auteur. Ce qu'il veut que nous comprenions, c'est Israël était perdu, Israël a douté, Dieu a sauvé Israël. Moïse a invité Israël à la foi. Et conclusion, verset 30-31. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur et mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Voilà ce à quoi Dieu voulait arriver, à la foi d'Israël. Cet acte, c'est l'acte dont Israël va faire mémoire tout au long de l'Ancien Testament et qu'on retrouvera encore dans le Nouveau Testament et encore dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'acte fondateur d'Israël. Et donc nous avons en Genèse 2 la foi d'Abraham qui est mise à l'épreuve et Abraham qui est irréprochable. Et ici en Exode 14, nous voyons aussi la foi d'Israël mise à l'épreuve, Israël qui doute, Dieu qui fait un signe éclatant et Israël qui voit le signe, et qui croit en Dieu et en Moïse son serviteur. Parce que Moïse, c'est lui qui avait invité Israël à la foi. C'est lui qui avait dit, vous verrez, vous ne verrez plus les Égyptiens, et vous verrez comment Dieu combat pour vous. Et Israël a vu, et Israël a cru, en Dieu et en son porte-parole Moïse, qui est aussi celui par qui Dieu a agi, avec le bâton, etc. Et donc, Dieu parle et agit par des médiations. Ici, c'est Moïse qui est le médiateur par lequel Dieu parle et agit, pour Israël. Et le médiateur est aussi objet de la foi, c'est-à-dire c'est sa mission qui est objet de foi. Vraiment, cet homme est envoyé par Dieu auprès de nous. Israël voit et Israël croit. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Pardon? Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a un texte qui est... Saint Thomas, oui. Et avant Saint Jean, devant le tombeau vide, il vit et il crut. Et on pourrait dire aussi, parce qu'il crut, il vit au-delà de ce qui était visible. C'est-à-dire que le tombeau vide en soi, il y a une autre explication qui est donnée, c'est ils sont venus voler le corps. Mais parce que Jean avait entendu Jésus parler de la résurrection, quand il voit le signe, il croit. Et il voit au-delà du signe brut, un tombeau vide, il dit le Christ est ressuscité. Il croit en Jésus ressuscité. Et nous continuons en fait la suite du texte, c'est le psaume, c'est le cantique de Moïse en Exode 15. Les deux sont inséparables. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Et là, nous chantons gaillardement, le Seigneur est un guerrier, cheval et cavalier, il les lance dans la mer, etc. Chantons sa victoire. Et verset 2, « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. » Le Seigneur est non seulement celui qui sauve, il est en lui-même le salut. Jésus, le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve ». Et toute la louange d'Israël est formée sur ce cantique de Moïse, jusqu'au Magnificat. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Verset 3, le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur, les chars de Pharaon et ses armées les lancent dans la mer, l'élite de leur chef a sombré dans la mer rouge. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Ta droite, c'est-à-dire ton bras. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Et puis au verset 11, qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible dans ses exploits, auteur de prodiges, tu étends ta main droite, la terre les avale. Et donc, le cri de la louange d'Israël, c'est « Il n'y a pas d'autre Dieu comme le Seigneur. » De Dieu, dans le livre d'Isaïe, c'est « De Dieu juste et sauveur, il n'y en a pas comme toi. » Et même « Il n'y en a pas du tout. » La déroute des Égyptiens ne débouche pas sur le cri d'Israël « On est les meilleurs, on a gagné ». Elle débouche sur « Le Seigneur est merveilleux, mon âme exalte le Seigneur ». Et à la fin, au verset 17, tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. L'Exode aboutit au temple de Jérusalem, dans le sanctuaire, où Israël va chanter le cantique de Moïse, la louange, et chanter à la face des nations le salut dont il a été l'objet. La montagne, c'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Pensons à l'Olympe. La montagne est dans Dans le cœur de l'homme, pour rencontrer la divinité, on monte. Voilà. Et donc, on va sur la montagne. Voilà, donc il y a le mont Moria où Abraham était invité à offrir son fils. Il y a le mont Sinaï. Et puis à Jérusalem, il y a le mont Sion, la montagne du temple. Il y a la montagne de la transfiguration. Voilà. Et le verset 18, le Seigneur règnera pour les siècles. Ça, c'est le CQFD. Qui est le roi du monde? Est-ce que c'est Pharaon ou est-ce que c'est le Dieu d'Israël? Le Seigneur l'a prouvé, c'est lui qui règne. Et le Dieu créateur qui a mis de l'ordre dans la création, il met de l'ordre aussi dans l'histoire en venant au secours de ceux qui crient vers lui et en mettant en œuvre sa bénédiction. Simplement, quand Dieu met de l'ordre dans l'histoire, il s'adresse à des libertés. Et ça suppose la foi d'Israël, qu'Israël passe du doute à la foi. On lit juste l'oraison et après on fait encore une pause. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis, par ta main puissante, tu as délivré un seul peuple de la poursuite de Pharaon, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître par les eaux du baptême. Fais que tous, de par le monde, deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité des enfants d'Israël par le Christ notre Seigneur. Donc on a toujours jadis, c'est ce qui nous est raconté dans l'Ancien Testament, désormais, aujourd'hui, tu fais renaître par les eaux du baptême. Et il manque ici dans l'oraison la mention de ce dont nous faisons mémoire, la mort et la résurrection du Christ, qui est son baptême dans la mort et la résurrection. Alors vous avez en 1 Corinthiens au chapitre 10, Saint Paul fait explicitement le lien entre le passage de la mer et le fait que nous sommes baptisés dans le Christ. Nous traversons les eaux de la mort et nous ressuscitons avec le Christ. C'est aussi l'épître aux Romains que nous lisons à la veillée pascale. Nous sommes crucifiés avec le Christ et nous ressuscitons avec le Christ. Nous passons par les eaux de la mort et nous relevons. Et le baptême mime. Avant, on était plongé, c'était le baptême par immersion, on était plongé dans les eaux trois fois. Et donc, on était plongé dans la mort, recouvert par les eaux de la mort, et on se relevait trois fois.
On peut reprendre ténèbres-lumière.
Pardon ?
Ténèbres-lumière.
Aussi, oui. On fait une pause, on reprend dans 10 minutes, et voilà, ça sera un peu plus court pour le dernier texte. Pour ceux qui le souhaitent, à midi et quart, il y aura une Eucharistie. Thank you.